Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. Charlotte Dornelas est de retour. Ça y est, tout va bien.
Ça va, Charlotte?
Vous allez pouvoir le tweeter.
Oui. J'aime bien parce que c'est plus à la mode puisque Twitter n'existe plus.
Mais bon. Ah,
mettez-moi vos messages.
Je vous vois pas avec Marc X. Non.
C'est un sujet.
Chut. Simon Guillain. Bonsoir. L'info du soir.
Bonsoir, Christine. Et bonsoir à tous. Chers téléspectateurs, l'humoriste Guillaume Meurice a été suspendu par Radio France. Dimanche, il a réitéré ses propos polémiques tenus fin octobre sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'humoriste de France Inter est dans l'attente d'une nouvelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. L'Assemblée nationale approuve la création d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le cinéma. Les députés ont adopté à l'unanimité cette proposition initiée par l'écologiste Francesca Pasquini. Présente dans l'hémicycle aujourd'hui, l'actrice Judith Godrèche, devenue l'une des figures de proue de la lutte contre les violences sexuelles, n'a pas caché son émotion. Et puis la famille de Matisse souhaite une marche blanche solidaire et dans un esprit serein samedi à Châteauroux. Cet adolescent de 15 ans a été tué à coups de couteau, c'était le 27 avril dernier. Son agresseur a été mis en examen et placé en détention provisoire, cher Christian.
Merci beaucoup, mon cher Simon. Et au sommaire ce soir, l'Europe est en danger de mort. Voilà la une de The Economist avec Emmanuel Macron. La meilleure façon de construire ensemble, c'est d'avoir le moins de nationalistes possible, déclare le chef de l'État. Alors aujourd'hui, nous nous penchons avec précision sur ce sujet de l'Europe. Allons-nous vers une majorité de droite ou conservatrice au Parlement de Bruxelles le 9 juin au soir? Qu'est-ce que cela peut changer? Ce Parlement est-il un vrai Parlement? Quelles sont les droites du Parlement européen? Que représentent les nationalistes au Parlement européen? L'édito de Guillaume Bigot. Alors qu'Emmanuel Macron veut mettre l'arme nucléaire française au service de l'Europe, alors que le chef de l'État déclare que tous les nationalistes européens sont des brexiteurs cachés en visant le Rassemblement national, il explique que confier l'Europe à la droite nationale, c'est comme confier la banque aux braqueurs. Que veut Emmanuel Macron? Pourquoi milite-t-il pour une Europe fédérale? Pourquoi cet effacement de la France au service de l'Europe? L'analyse de Gabriel Cluzel. Pourquoi le Rassemblement national est en tête aux européennes? Pourquoi la droite nationale fait-elle peur à Emmanuel Macron? Nous nous arrêterons sur les nouveaux conservateurs en Europe. La droite nationale est au pouvoir en Pologne, en Hongrie, en Suède, en Italie avec Giorgia Meloni. En Allemagne, l'AFD monte en puissance. Au Portugal, le parti Chega, lui aussi, est en progression. Pourquoi la droite nationale progresse-t-elle en Europe? Le regard de Marc Menon. Quelles sont les différences de vision de l'Europe entre RN et Reconquête? Pourquoi des différences? Sont-elles significatives? Comment les comprendre? Reconquête joue le vote du courage et des convictions. Le RN joue celui du vote utile. Reconquête, RN, les frères ennemis, le décryptage de Charlotte Dornelas, le retour. Et puis alors que les manifestations pro-palestiniennes déstabilisent les démocraties occidentales, qu'en est-il au sein de l'Europe? En Allemagne, en France, ces manifestations se multiplient. Nos sociétés au sein de l'Union européenne, devenues multiculturelles, tendent-elles à être des sociétés multiconflictuelles? Va-t-on vers une sorte de libanisation de l'Europe? La Palestine from the river to the sea, ou bien la Palestine des monts de l'Oural à l'Atlantique? Le coup de poing de Guillaume Bigot. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires en pleine forme. Allez, c'est parti! Où étiez-vous comme ça, Charlotte?
Je suis allée à Cameroun, à Aubagne. J'ai beaucoup pensé à vous.
C'est vrai, c'était bien. On a parlé de vous.
J'ai croisé quelques téléspectateurs de Face à l'info.
Merveilleux. En tout cas, on est contente content de vous retrouver. On parlera, on fera un petit tour de table ce soir, même si on va beaucoup parler de l'Europe, on fera un petit tour de table à propos de Guillaume Meurice et ce que nous avons appris ce soir à propos de cet humoriste de France Inter qui a été suspendu par Radio France après avoir répété ses propos sur Netanyahou. D'abord, Emmanuel Macron fait la une de The Economist en criant une fois encore que l'Europe est en danger de mort. Il déclare « La meilleure façon de construire ensemble, c'est d'avoir le moins nationaliste possible », déclare-t-il. Nous allons nous poser toutes les questions ce soir au sein de cette émission sur la droite et l'Union européenne. D'abord, Guillaume Bigot, va-t-on vers une révolution conservatrice, une vague patriote identitaire au sein du Parlement européen ?
Suspense. En fait, on ne peut pas vraiment... c'est très dangereux de faire des prévisions. En général, quand on est un politologue, en particulier quand il y a aussi proche d'un scrutin, parce que vous savez que les sondages, ce n'est pas le scrutin. Mais enfin, on va quand même essayer de jouer le jeu. Et pour comprendre ce qui peut se passer, on va commencer par partir, disons, de la photographie de 2019, c'est-à-dire le Parlement européen actuel, et commencer par constater que le Parlement européen actuel, tel qu'il va fonctionner jusqu'au 9 juin prochain, eh bien la droite, si on additionne tous les partis de droite, vous voyez le PPE, parti de centre-droit, ECR, les conservateurs identitaires, ID, populistes identitaires et les non-inscrits, si on additionne tous ces gens-là sur 705 sièges, la droite représente 305 sièges, donc pas de majorité. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Une poussée de Renew, le parti centriste européen, une poussée déjà du parti populiste ID, une partie des conservateurs, une poussée déjà, pardon, des conservateurs identitaires ECR. Alors ID, c'est identité et démocratie. Rassemblement national se raccroche à identité et démocratie, comme la Ligue italienne, la Lega, comme l'AFD allemande. ECR sont les conservateurs et réformistes, dont Fratelli d'Italia de Madame Meloni, et dont le parti espagnol Vox, Droit et Justice en Pologne. Et pour être clair encore pour nos téléspectateurs, eh bien, le PPE, c'est bien sûr la formation traditionnelle de centre-droit, et LR est raccroché au PPE. Et en fait, ce qui s'est passé, il faut y revenir en 2019, c'est toujours le Parlement européen actuel, c'est que normalement, depuis les élections au Parlement européen depuis 1979, le centre-droit, auquel se raccroche donc le PPE, et le centre-gauche, la social-démocratie, avaient toujours eu la majorité. Et là, pour la première fois, tremblement de terre en 2019, plus de majorité. Donc comment ils ont fait ? Ils ont déjà été obligés de se réunir. Ils ont fait une grande coalition, comme ce qu'on voit assez souvent en Allemagne d'ailleurs. Mais le soutien à Ursula von der Leyen, qui elle-même est du PPE, n'a pas été obtenu que par cette coalition. Ils se sont alliés à Renew d'un côté, et ils se sont alliés aussi aux écologistes. Donc on a eu une gigantesque alliance, disons, centre-gauche, centre-droit, Renew et Vert. Alors la question qu'on peut se poser à partir de cette photographie du Parlement européen aujourd'hui, c'est à quoi ça peut ressembler demain.
Ah, ça nous intéresse. Non, c'est vrai, le Parlement. Non, pas du tout. Non, il faut partir de constat pour savoir où on va.
Très bien.
Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Alors,
si on agrège les sondages, voilà ce que ça pourrait donner. Donc là, c'est une agrégation de tous les sondages. D'abord, on voit que ID a gonflé considérablement son score. Deviendrait après le PPE, qui serait à peu près stable finalement, le parti de LR à l'échelle européenne, ça donne PPE, serait à peu près stable, perdrait quelques voix, ID va augmenter, ECR va augmenter, voilà, et Renew va se contracter finalement.
Donc aurait ECR, où il vainqueurs. Y aurait Reconquête, Frères voilà. d'Italie, etc., devrait augmenter, donc on le voit à l'image.
Oui, c'est ça. Tous les sondages indiquent que ECR est en augmentation, ID est en augmentation, PPE stagne.
ID, il y a le Rassemblement National.
Exactement, se contracte. Et donc la majorité va nécessairement changer. C'est ce que tous les sondages indiquent, enfin en tout cas numérique, si on additionne les voix. Autrement dit, on n'aura pas de raz-de-marée, si vous voulez, conservateur, identitaire, de droite, on n'aura pas un raz-de-marée, mais on aura quand même cette fois-ci une majorité. Parce qu'on va passer à 720 sièges. Alors pourquoi 705-720 ? Parce qu'il y a eu un petit changement démographique en Europe, donc on a ajusté le nombre de parlementaires, et la droite représentera 396 sièges sur 720. Quand je dis la droite, c'est l'addition de PPE, voilà, l'addition de PPE, l'addition, on le voit maintenant, donc le centre-droit LR, ECR dont Reconquête, et ID dont le Rassemblement National. Si on additionne tout ça, ça sera normalement la majorité du Parlement européen de demain.
très intéressant. Je regarde encore ce qui est à l'antenne avec ce qu'on a actuellement et ce que ça devrait donner, donc avec les projections des sondages. Et on voit, voilà, c'est très intéressant. Vous avez fait une très, très, très belle.
Poussée de droite, mais pas un raz-de-marée, en clair.
Poussée de droite, mais pas un raz-de-marée. Alors, vous nous dites que la droite va gagner, mais est-ce que cela implique, pardon, qu'elle va gouverner en Europe? On a beaucoup de questions. On verra aussi avec Charlotte la différence entre RN Reconquête. On verra aussi avec Marc la poussée des néoconservateurs au niveau de l'Union européenne.
Alors, pour répondre à cette question, non, en fait. Non, et en fait, pour deux raisons très simples à comprendre. La première raison, c'est que ce n'est pas le Parlement européen qui a le pouvoir de faire un peu de défaire. Ils peuvent mettre un veto ou une sorte de censure de la Commission européenne, mais ils n'ont pas le pouvoir de faire la Commission. La Commission européenne, elle est choisie en réalité par le Conseil européen. Et le Conseil européen sont les représentants des gouvernements à l'intérieur du Conseil qui décident et qui vont choisir en fait la commissaire européenne, le ou la commissaire européenne demain. Donc le Parlement européen va avaliser, va voter, mais c'est pas eux qui vont choisir, et ça c'est fondamental à comprendre, même si je répète, le Parlement européen a un droit de veto. Voilà pour la raison pour laquelle c'est pas parce qu'il y a un changement au Parlement européen que ça va automatiquement enclencher un changement à la Commission européenne. La deuxième raison, c'est parce qu'au sein du Parlement européen, il va y avoir des alliances. C'est une cuisine parlementaire qui est assez classique. On en a moins l'habitude parce qu'on est plus sous la 4e ou la 3e République.
Non, mais j'aime bien parce que personne n'en parle et c'est très très important d'expliquer ça.
C'est fondamental. Je pense que cette cuisine parlementaire, encore une fois, elle existe dans tous les parlements. Notamment en Israël, on voit bien comment des tout petits partis peuvent faire ou défaire la majorité, etc. Bon. Et cette cuisine parlementaire, et là, il y a plein de questions qui vont se poser. Donc, si on sait à peu près qui va monter et qui va descendre et à quoi va ressembler la majorité, on ne sait pas comment cette majorité va se constituer, comment, avec des légos, en quelque sorte, politiques, ça va se constituer. Prenons un exemple. Le parti de Viktor Orban. Parti de Viktor Orban, qui est très important, parti qui a la majorité en Hongrie, parti qui va avoir des représentants hongrois au Parlement européen, avec qui ils vont s'allier? Ils étaient il y a longtemps dans le PPE. Ils ne sont plus dans le PPE. Est-ce qu'ils vont s'allier à ECR, le fameux parti auquel se raccroche Reconquête? Peut-être que oui, peut-être que non. ECR, finalement, est devenu assez européiste avec Mme Meloni. Ils sont devenus aussi très pro-Ukraine. M. Orban, il n'est pas très pro-Ukraine. Compliqué. Est-ce que ECR va s'allier avec ID? C'est-à-dire le parti de Reconquête au Parlement européen va s'allier avec le parti de Jordan Bardella au Parlement européen? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que ECR, ID et le PPE, c'est possible? Finalement, LR, RN et Reconquête vont s'allier au Parlement européen, c'est possible. Par contre, ils n'auront probablement pas de majorité. Donc il faudra qu'ils s'allient. Mais avec qui? Avec Renew? Ça devient complètement vertigineux. Est-ce qu'on imagine demain Jordan Bardella voter avec les macronistes pour soutenir Ursula von der Leyen? Enfin, c'est complètement fou. Alors, pourquoi c'est aussi bizarre? Je répète, il y a quelque chose qui est dû au parlementarisme, mais il y a quelque chose qui est renforcé par la dimension supranationale de ce Parlement. Ce qui fait que les partis ne sont pas les mêmes au Parlement européen et ne sont pas les mêmes dans les pays. Et on le voit très bien en France. Nos partis, là, si on prend les trois partis de droite, ils ont un discours à l'égard des électeurs français et ils vont sans doute faire tout à fait autre chose. Prenons un exemple. LR d'abord. François-Xavier Bellamy, il se targue de ne pas avoir voté pour Ursula von der Leyen. Il dit, oui, alors le PPR, c'est vrai, a soutenu Ursula von der Leyen, mais on peut être fier du fait que LR n'a pas soutenu Ursula von der Leyen. Bah, très bien, mais au Parlement européen, pardon, mon garçon, mais tu seras PPR quand même. Relié...
C'est PPE.
PPE, oui, oui, PPE. Oui. Autant pour moi. C'est le PPE, mais ça ne change pas le raisonnement. En réalité, il sera tout de même PPE. Donc comme il sera au PPE, eh bien, son parti va peut-être soutenir Ursula von der Leyen ou pas le soutenir. Mais vous voyez, il y a bien un décalage. Le Rassemblement national, c'est la même chose. La stratégie de dédiabolisation du Rassemblement national, elle est brillante, elle est achevée en France. Mais ils vont se retrouver avec qui au Parlement européen?
Pas tout à fait achevée en France, mais bon.
C'est un avis, mais je pense qu'il y a beaucoup.
Elle est avancée.
Si on regarde ça sur le long terme, beaucoup de politologues se disent que quand même c'est un parti qui est maintenant, enfin, il y a vraiment que les macronistes pour parler de d'arc républicain.
Ils sont au pouvoir, justement.
Exactement. Et c'est peut-être pas sans lien. Mais donc en fait, finalement, le RN va peut-être se retrouver demain avec des partis comme l'AFD qui sont ses alliés et qui eux, pour le coup, sont loin d'être dédiabolisés. Et d'ailleurs, ils sont isolés et mis de côté. Reconquête. Quelle est la chanson que nous chante Reconquête, si j'ose dire, sur le terrain électoral en France? Bah, ils disent, écoutez, le RN, c'est quand même un parti qui est maintenant très à gauche sur le plan économique, etc. Nous, on est plus à droite. Ah bon? Mais au Parlement européen, bah, vous vous retrouverez sans doute dans une formation ECR qui est en fait moins à droite que ID, où va se retrouver le Rassemblement national. Donc on va jouer finalement à front renversé. Reconquête, à mon avis, n'adhère pas à cette stratégie de l'arc arc républicain pour isoler le Rassemblement national à Paris. Ah, par contre, ils sont très contents de ça à Bruxelles, où, parce qu'ils disent justement, si vous votez pour nous, on sera dans un parti qui, lui, n'est pas isolé. Donc, ça veut dire qu'ils valident au plan européen ce qu'ils détestent au plan national. Donc, vous voyez, mais tous les partis sont dans ce grand écart parce que la vie politique nationale n'est pas du tout la vie politique intra-européenne au sein du Parlement européen qui est suspendue dans l'air.
Très intéressant tout ça. Le Parlement européen, est-ce qu'il est comparable aux parlements nationaux ? Est-il aussi démocratique que les parlements nationaux ?
Écoutez, soit on est pro-européen, on est européiste et on a tout à fait le droit et on dira de manière honnête que ce Parlement, c'est un embryon de Parlement, c'est un Parlement en devenir. Bon, si on est souverainiste, que je suis, comme vous savez, on dirait que c'est quand même un simulacre de Parlement. Pourquoi dans les deux cas, qu'on soit européiste ou pas européiste ? D'abord, un Parlement contrôle l'exécutif. Là, le contrôle de l'exécutif, il y a des questions écrites, il y a des questions orales que les parlementaires européens peuvent poser à la Commission, mais en fait, le pouvoir de contrôle de la Commission est très faible. Deuxièmement, le Parlement européen, c'est peut-être la clé. Le Parlement européen, un Parlement, il décide ce sur quoi il légifère. Voilà, on disait du parlementarisme anglais, le Parlement anglais peut tout faire, sauf changer un homme en femme. Enfin, c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, mais passons. Eh bien là, le Parlement européen, il ne peut pas choisir ses sujets. Il n'a pas le pouvoir d'initiative. Qui décide ce sur quoi il se prononce ? La Commission européenne a le monopole de l'initiative. Ensuite, le Parlement européen... Il ne vote pas complètement le budget, en réalité. Ça, c'est l'origine du parlementarisme. No taxation without representation. C'est ça, la base du parlementarisme. Eh bien, en fait, en dépenses, le Parlement européen se prononce sur des dépenses, mais en réalité, le budget est établi dans un processus assez long, assez complexe, assez peu transparent. Et en recette, alors là, il ne touche pas une cacahuète, puisque c'est réglé par les traités, et c'est uniquement le Conseil européen qui a la main. Finalement, pour terminer, dans l'architecture globale de l'Union européenne, institutionnelle, on peut dire que, un, le Parlement n'est pas au cœur, et deux, l'ensemble n'est pas très démocratique. La Commission a des pouvoirs exorbitants, la Commission est en rien démocratique. Le Conseil européen... Oui, c'est constitué de gouvernements qui sont normalement démocratiques dans leur pays, mais ils votent entre eux. Autrement dit, c'est des démocraties indirectes. Quant au Parlement européen, il n'a que peu de pouvoir, mais en réalité, il est assez peu représentatif. J'espère l'avoir montré. Il y a un débat au sein du Parlement européen, des partis au sein du Parlement européen, mais ça ne se reflète pas dans la vie démocratique européenne parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Et quand quelqu'un est élu au Parlement européen, en général, il faut déclencher une alerte d'enlèvement parce qu'on n'entend plus généralement beaucoup parler. Et dernier point, le peut-être le plus essentiel, toute la vie démocratique européenne se déroule à l'intérieur d'un cadre très strict qui est celui des traités. D'accord ? Et à l'intérieur de ces traités, vous ne pouvez pas faire grand-chose.
J'aime bien parce que ça rappelle un peu votre livre qui sort demain. On marche sur la tête aux éditions Artilleur, c'est ça ?
Exactement.
Que vous avez écrit donc avec vous, politologue et un juriste, un avocat, pour passer au scanner l'Europe et expliquer que l'Europe fait marcher les peuples des différents pays européens sur la tête. Qui pilote la machine ? Quelles sont les vraies intentions de nos décideurs ? Voilà, vous avez emmené un livre pour chacun, je vais emmener... Voilà, faites passer jusqu'au moins vilain. Voilà, tenez mon karma. Très intéressant. Donc ce livre, il sort demain. Exactement. On a bien compris quand vous êtes votre
très
regard
propre.
Sur le...
Oui.
Mais on va se raccrocher un peu à Emmanuel Macron, parce que à la fois vous êtes contre l'Europe, à la fois on a un président de la République qui milite absolument pour une Europe fédérale. Et Gabriel Cluzel, la question qu'on a envie de se poser, on l'a vu avec Guillaume Bigot, avec Mathieu Bocoté, comment l'arme nucléaire, il veut la partager. On a vu son discours de la Sorbonne. On va revoir un peu la vision d'Emmanuel Macron. Pourquoi milite-t-il pour une Europe fédérale ?
Oui, alors ce qui saute aux yeux depuis longtemps, c'est que Emmanuel Macron trouve le costume France étriqué. Vous savez, il y a des maires dont on se dit il est à l'étroit dans sa ville, il se rêve un destin national. Eh bien lui, il est à l'étroit dans son pays, il se rêve un destin supranational et donc européen. Il se sent à l'aise dans le cadre européen. Vous savez, il m'a toujours rappelé cette chanson de Michel Despeche. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça gêne de marcher avec nous. C'est pas le
Loir-et-Cher.
Non, je vais épargner les oreilles.
Retenez-vous, Martin.
Et là, c'est pas le Loir-et-Cher, donc c'est la France. Mais moi, j'ai toujours été persuadée qu'Emmanuel Macron, son fort intérieur, trouvait moins fasciste que Plouc, quoi qu'il en dise, les électeurs du RN accrochés à leur drapeau tricolore. C'est pour lui, ce qui le comble du chic, c'est l'Europe. Alors, Europe fédérale, c'est un mot tabou parce qu'il fait peur en France, dans notre grand pays qui tient à sa souveraineté. Déjà, en 1962, Raymond Aron parlait de fédéralisme clandestin. Mais aujourd'hui, c'est un peu, pour Macron, la formule de Gambetta à propos, je crois que c'est Gambetta, à propos de l'Alsace-Lorraine. Il pensait toujours, n'en parlait jamais. En réalité, Emmanuel Macron rêve de toujours plus d'intégration européenne et d'Europe fédérale. Et le mot qui casse l'Europe fédérale, c'est en réalité la souveraineté européenne. Et toujours plus d'Europe, c'est une vraie idéologie. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez remarqué ça avec les vieux communistes, quand vous leur dites, écoutez quand même ton truc là, ça a foiré, regarde tous les pays qui ont appliqué le communisme, ça a été une catastrophe. Eh bien, ils vous expliquent que c'est pas parce que c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de communisme justement. C'est souvent des gouvernants qui ont trahi le communisme chimiquement pur. Donc en fait, il aurait fallu plus de communisme pour que ça fonctionne. Eh bien, Emmanuel Macron avec l'Europe, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il considère que, en fait, l'Europe, c'est pas une réussite. En tout cas, beaucoup d'Européens le constatent et le disent dans les urnes. Mais lui, il considère qu'il faut encore plus d'Europe. Et il n'a aucun bilan sur les échecs patents européens. Pour lui, il faut absolument pas revenir en arrière. Alors, il faut rappeler qu'en ça, il a longtemps, tout jeune qu'il soit, pour un président en tout cas, il a longtemps été en phase avec son électorat âgé, donc on dit âgé, parce que cet électorat qui est né sur les décombres de deux guerres fratricides, qui ont envoyé se faire tuer toute la fine fleur européenne, hein, il faut bien le dire, qui a été biberonné au libéralisme glorieux dans une Europe fondée sur le commerce, hein, la communauté européenne du charbon et de l'acier, du commerce, et qui était dès l'origine convertie au capitalisme anglo-saxon, elle ne voyait pas pourquoi le mondialisme aurait été un problème. Donc, elle était tout à fait en phase avec Emmanuel Macron.
Mais l'Europe, c'est un mot ambigu. Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'use pas justement de cette ambiguïté derrière l'Europe ?
Oui, complètement. L'Europe, c'est un mot qui a plusieurs significations. Alors, Paul Valéry, vous le savez, la citation est connue, disait, est absolument européenne, toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise quant à l'esprit à la discipline des Grecs. Et de fait, l'Europe est à la confluence de Athènes, Rome et Jérusalem. Elle est à la fois le produit, l'Europe au sens ancien du terme, originel du terme, elle est à la fois le produit d'une philosophie et d'une religion. C'est la foi et la raison, c'est ce qui fait son originalité, parce que en principe ça devrait être antinomique. En fait, c'est des forces qui se sont jointes comme les contreforts d'une cathédrale pour faire monter la flèche européenne. Cette Europe, c'est l'Europe dont la reine Victoria pouvait se prévaloir d'être la grand-mère. Vous savez, on disait qu'elle était la grand-mère de l'Europe. C'est l'Europe de Victor Hugo, qu'on dit le grand-père de l'Europe. Vous savez, il disait dans son discours de la paix en 1849, un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Donc c'est vraiment l'Europe séduisante, de la paix, des synergies économiques, de la communauté culturelle et civilisationnelle. C'est une Europe, évidemment, qui ne fait pas peur.
Sauf qu'on a bien compris que l'Union européenne, c'est pas ça.
C'est pas du tout ça. L'Union européenne, c'est un Léviathan mouvant, technocratique, sans adhésion populaire, dont les dirigeants n'ont pas été élus d'ailleurs, sans identité culturelle. On a refusé sciemment d'y inscrire ses racines chrétiennes, et au contour géographique étirable à l'infini. On est passé de 6 à 27, sans parler des nombreux pays sur le seuil, que Victor Hugo n'aurait jamais eu l'idée saugrenue de qualifier d'Europe. Si tout est Europe, rien n'est Europe. Et ce qui est le plus triste et le plus terrible, je trouve, c'est que l'Union européenne brade les frontières qu'ont payé de leur vie ceux à la mémoire desquels s'est créée l'Europe de la paix. Vous voyez, on disait, voilà, cette Europe, on a dit plus jamais ça après ces deux guerres fratricides. Eh bien, si on brade ces frontières, ça voudrait dire qu'ils seraient morts pour rien. Et le plus comique, si ce n'était pas tragique, c'est que l'Europe de la paix devient contre toute attente de plus en plus belliqueuse. On a des épiciers qui veulent devenir des soldats. Et l'idée, même l'idée qu'unie, parce que ça c'est vraiment aussi un lieu commun, qu'unie l'Europe serait plus forte, pourrait s'opposer aux gros blocs comme les États-Unis et la Chine, ben même ça c'est un peu en train de s'effondrer. Et beaucoup d'Européens le comprennent déjà parce que la Suisse, qui convenons-en est un petit pays, s'en sort plutôt mieux que nous. Et puis en fait à l'origine, l'Europe de Monnet et de Schuman a été voulue par les États-Unis dans le cadre de la guerre froide, mais aussi pour constituer un marché commun qui pourrait lui permettre de constituer un débouché pour sa production. Et il y a jusqu'à la tentation messianique de s'étendre à l'infini, d'étendre à l'infini. Vous voyez ces fameuses values, ces valeurs européennes qui sont devenues une sorte de décalogue mondial. L'étendre à tout jusqu'au sud global qu'il déteste. Eh bien, c'est bien les États-Unis qui ont insufflé cet esprit aux Européens.
À quoi voit-on le fédéralisme obstiné d'Emmanuel Macron ? On en parle juste après la pause. On verra aussi avec Charlotte Dornelas la différence entre RN, Reconquête, la vision de l'Europe de ces deux partis. On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. On parle beaucoup de l'Europe ce soir. Emmanuel Macron a fait la une de The Economist en disant que l'Europe est en danger de mort. Et la France, chut, on n'en parle pas, mais nous on en parle. Et Emmanuel Macron déclare « La meilleure façon de construire ensemble, c'est d'avoir le moins de nationalistes possible ». Question pour vous, Gabriel Cluzel. À quoi voit-on le fédéralisme obstiné, si je puis me permettre, d'Emmanuel Macron ?
Alors, à 1000 indices, mais dont la liste suivante ne saurait être exhaustive, parce que c'est très compliqué de faire le tour. Alors, il y a quand même des points très simples et frappants. Tout d'abord, il ne parle que de souveraineté européenne. Exit la souveraineté française. Alors, je vous enjoins à aller écouter son discours de la Sorbonne, récent, mais j'allais dire ces deux discours de la Sorbonne, puisqu'il y en a eu un aussi en 2017. Vous savez, on accuse Macron d'être inconstant, d'avoir des sincérités successives et dans le même temps. Ben, là, une constance, c'est celle-là. C'est sa constance européenne, ça, il ne bouge pas d'un iota. Et puis, ce sont ses amis qui en parlent le mieux. En janvier dernier, à Davos, Emmanuel Macron a été présenté par Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, comme un leader dont le cœur bat pour l'Europe. Et de fait, au cours de son intervention là-bas, il n'a été question, là encore, que de souveraineté européenne et pour aller toujours plus loin dans cette souveraineté. Bien évidemment, l'épisode, c'est pas neutre, parce que c'est un symbole très fort du drapeau européen, déployé par deux fois, à trois mois d'intervalle, sous l'Arc de Triomphe, au mépris des usages. Une fois pour célébrer la présidence française du Conseil de l'Union européenne et une autre fois à l'occasion du sommet de l'Union européenne à Versailles. Et puis il y a cette obstination qui est très frappante à ne prendre aucune décision sans avoir l'aval de l'Union européenne. Moi j'ai été très frappée pour la crise sanitaire. Et puis, même encore pour la crise agricole, Emmanuel Macron est allé chercher ses ordres, entre guillemets, auprès de Ursula von der Leyen, au cœur de la crise.
Ça pour envoyer les troupes en Ukraine, hein. Je ferme la parenthèse.
On l'a vu aussi pour la crise de l'électricité. Nous ne sommes pas sortis du marché commun européen, et tant pis si nous avions les moyens, nous autres Français, de payer notre électricité moins chère. Et puis, il pousse le candidat fédéraliste, s'il en est, Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, pour remplacer Ursula von der Leyen, très impopulaire. Alors, on peut citer une liste à l'infini. Il a milité avec les députés Renews pour la réouverture de la Convention des institutions. Il pousse pour l'extension à des domaines très stratégiques du vote à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité, ce qui est extrêmement important. Et puis, il plaide, ça c'était dans le discours de la Sorbonne, pour une intégration de la défense, toujours plus importante. Et vous l'avez dit, ça c'est vraiment le dernier coup d'éclat, pour un partage de l'arme nucléaire, une mutualisation de cet instrument de souveraineté, s'il en est. Mais rappelons que si la dissuasion nucléaire est précieuse, eh bien, elle a un coût. Moi, j'ai envie de dire qu'elle n'appartient pas à Emmanuel Macron. Ce sont tous les contribuables, par leur sacrifice, qui sont arrivés à construire cette dissuasion nucléaire. Et pendant ce temps, les Allemands, par exemple, faisaient autre chose. Les Allemands, ils construisaient leur industrie. Et je crois qu'ils n'ont pas proposé de la partager avec nous, sauf erreur de ma part. Donc vous voyez, c'est une mutualisation qui paraît bien légère. Et on pourrait en parler pendant des heures, parce que je vous l'aviez dit d'ailleurs, Guillaume, la dissuasion en multipliant les décisionnaires. Alors est-ce que c'est toi ou moi, tu es d'accord, on appuie sur le bouton, ils sont 27.
À la majorité qualifiée peut-être.
Oui, alors peut-être à la majorité qualifiée, et quand même très diluée. Et puis de même que la notion d'intérêts vitaux, c'est quoi les intérêts vitaux de la nation, de l'Europe, enfin, ça devient extrêmement compliqué. Et l'étape suivante, moi je vous fiche mon billet, c'est le partage, parce que ça a déjà été évoqué. C'est le partage du siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce qu'avait proposé en 2018, sans vergogne, Olaf Scholz. À l'époque, il était vice-chancelier. La mutualisation avec l'Union européenne et le droit de vote afférent.
De veto, même.
Le droit de veto afférent. Alors, il avait dit quand même, Olaf Scholz, la France avait refusé, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'éminemment fort pour la France, qu'elle a gagné de haute lutte à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, Olaf Scholz avait dit être parfaitement conscient d'avoir un grand travail en perspective pour convaincre. Donc, vous voyez, c'est un travail de longue haleine. Et moi, je vais vous dire, on parle toujours du couple franco allemand, eh bien écoutez, c'est un couple sado-maso et le problème, c'est que le maso, c'est la France.
Dernière question, Gabriel, en quelques secondes. L'Europe est mortelle, elle peut mourir, a dit Emmanuel Macron, je disais à la une de The Economist, et lors de son intervention à la Sorbonne.
Exactement. Alors là aussi, je crois qu'il a joué vraiment sur l'ambiguïté. À quelle Europe faisait-il allusion? Vous savez, c'est Paul Valéry aussi qui a dit « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. » Eh bien, c'était à l'Europe en tant que civilisation, cette fibre romantique qu'il faisait appel. Mais vous savez, si l'Union européenne, cette fois, est mortelle, eh bien, il aura peut-être à ne s'en prendre qu'à lui-même, le relâtre Emmanuel Macron, parce que en multipliant ces signes d'intégration, par exemple, cette majorité qui est étendu, il va faire peur à nombre de pays qui ne vont voir pour celui-ci que des exits. Et ça pourra peut-être signer la fin de l'Union européenne et il ne saura s'en prendre qu'à lui-même.
Pourquoi le RN est en tête aux européennes? Pourquoi la droite nationale fait-elle peur à Emmanuel Macron? Nous allons nous arrêter donc sur les nouveaux conservateurs en Europe avec vous, Marc Menon. La droite nationale est au pouvoir en Pologne, en Hongrie, en Suède, en Italie, en Allemagne, elle monte, ainsi qu'au Portugal. Pourquoi la droite nationale progresse-t-elle en Europe?
Alors déjà, on pourrait se poser la question, avant que l'Europe soit mortelle, est-ce que la France n'est pas mortelle? Est-ce qu'on ne va pas assister aux funérailles de la France si l'on continue dans certaines directions? C'est intéressant l'analyse, parce que quand on prend les différents partis, dits de droite ou d'extrême droite, et qu'on tente un effet loupe pour voir qui ils sont. Quels sont les éléments qui feraient qu'on est dans un même enthousiasme, un même programme, une même logique? C'est pas si évident que cela. Alors, pour justifier, à mon sens, la montée de ces nationalismes, il faut retenir comme point essentiel, c'est l'immigration. La surimmigration, cette immigration qui fait que les gens vivent un quotidien qui ne correspond pas à ce qu'ils attendaient d'une vie dans laquelle ils avaient une culture qui les animait. Et puis il y a, dans la même filiation, un islam qui devient extrêmement prégnant, qui est un islam politique qui a de plus en plus d'entrisme et qui fait qu'au quotidien, quand vous vous promeniez il y a quelques années dans la rue, il n'y avait pas des femmes voilées à tous les coins de rue. Il y a de plus en plus d'hommes aujourd'hui qui portent des tenues affichant clairement non pas une origine ethnique, mais une volonté de se positionner en religieux. Et puis on l'a évoqué plusieurs fois la semaine dernière, le fait que dans les entreprises, il y a de plus en plus de revendications pour des temps de prière pour tout un chacun en fonction de sa religion. Alors il est évident que quand on a la fibre républicaine, on ne peut être que dans un rejet. Et comme les gauches en tant que telles, elles, se sont nourries du wokisme, qu'elles ont en quelque sorte avalisé cette montée d'une contre-culture, Il est certain qu'elles sont là un peu en panique, ces foules. Elles se disent, mais où peut-on trouver le petit espoir qui nous permettrait de rester non pas dans une identité? Ça veut dire quoi, une identité? D'abord parce que là, ça prête à confusion. Puisque ceux qui viennent en contre-culture revendiquent une identité. Et nous, on revendique aussi une identité. Quelle est l'identité de l'identité? Qui sera l'identité? Vous imaginez, enfin, c'est un monde de fours. Hey, Raymond, reviens avec nous, éclaire-nous un peu. Je parlais de De Vos. Et il est évident que là, on est dans une situation qui est intenable. Alors, de façon peut-être caricaturale, les gens vont vers le parti qui leur donne cette sensation de voir la petite étincelle dans le tunnel. Alors, la dernière illustration, elle se trouve où? Au Portugal. Le Portugal, c'est quand même une dictature. Il y a eu deux grandes dictatures. Nous oublions les nazis, etc. Mais dans le XXe siècle, deux grandes dictatures qui ont marqué, fractionné les pays et pendant des décennies, c'est l'Espagne avec Franco et puis c'est le Portugal avec Salazar. Et ce qui fait que quand ces pays ont émergé, qu'ils sont sortis, qu'ils ont vu ce parfum de liberté, qu'enfin ils pouvaient se laisser aller à quelques manifestations d'enthousiasme dans les rues, eh bien il est évident que personne ne votait pour ce que l'on appelait l'extrême droite, ceux qui pouvaient être dans le Hollande de Salazar ou de Franco. Eh bien que s'est-il passé là aux élections? On a vu arriver un monsieur qui s'appelle André Ventura, dont le parti se nomme Chega. Assez ! Assez ! Et que dit notre André Ventura ? D'abord, il s'est lancé dans la politique il y a peu de temps. Il était là, c'était un prof de droit d'abord. Après, il a été inspecteur du fisc. C'est pas ce qui vous rend populaire. Inspecteur du fisc, en général, si vous présentez, les cartons, ils restent de côté. Non, lui, il va réussir. Pourquoi ? Alors, le petit point qui pouvait le rendre populaire, c'est qu'il était un fan de football. Et on lisait ses commentaires du Benfica. Et puis, il y avait aussi cette idée d'une identité, mais cette identité qui est de voir un Portugal échapper à toutes les submersions telles qu'elles se produisent. Alors, il y a même des submersions qui viennent de chez nous. Les retraités qui vont s'installer là-bas au Portugal et qui s'accaparent les petits coins de paradis et aux dépens des Portugais. Alors, il dit, c'est formidable, notre succès. Il a terminé troisième, là, des élections. Troisième avec 18%. Il y a 5 ans, ce personnage était totalement inconnu. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, c'est d'une fulgurance incroyable, cette percée. Et avec des propos parfois très extrêmes, qui pourraient déranger et de se dire, mais quand même, oui, il a interpellé, par exemple, une députée qui est historienne, qui est noir et qui vient de Guinée-Bissau. Alors vous savez, la Guinée-Bissau faisait partie de ces pays colonisés par le Portugal. Il y a eu le Mozambique, il y a eu le Cap-Vert, etc., etc. Et il dit, cette femme qui demandait éventuellement à ce que l'on fasse une sorte d'état du patrimoine de Guinée-Bissau qui était exposé dans les musées au Portugal, de dire il y a une partie qui doit revenir chez nous. Il a dit dehors qu'elle retourne dans son pays d'origine. On pourrait penser que ça choque. Eh bien, à la fin, ce qui ressort, c'est cet espoir de voir simplement la possibilité d'exister selon une culture et de ne pas sentir cette submersion. N'oublions pas également ce qui s'est passé en Espagne, et ça a frisé le Portugal, c'est les 8 siècles de pénétration islamique. Alors on peut dire, il y a des monuments fabuleux, etc., il y a une créativité architecturale qui a marqué ces pays, mais c'était surtout le fait que l'on n'était plus chez soi. Alors ces éléments-là, sans doute, occupent l'ensemble des Européens. On pourrait parler en Suède. La Suède, l'espoir d'une gauche, utopiste qui était la référence pour tout un chacun et qui voit aujourd'hui, eh bien, l'extrême droite dans une percée à un endroit où on n'aurait jamais pu songer que cela soit possible.
Et ça veut aussi dire en creux que les partis politiques actuelles qu'ils ont testées ne répondent pas à leurs interrogations.
C'est le refuge. C'est presque, on ne veut même pas savoir ce qu'il y a dans le détail. On se dit qu'il y a quand même quelque chose. Voilà.
Merci beaucoup pour votre regard. Avant de parler des différences entre RN, Reconquête et leur vision de l'Europe, on fait un tour de table, je vous le disais tout à l'heure, sur Guillaume Meurice, puisque l'humoriste a été suspendu par Radio France après avoir répété ses propos sur Benjamin Netanyahou. C'est lui-même qui l'a annoncé sur son compte Twitter, être convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de son contrat. Alors vous rappelez qu'il avait dit que Benjamin Netanyahou était un nazi sans prépuce. Réaction, Gabriel Cluzel.
Écoutez, je vois que Guillaume Meurice...
Là, pardonnez-moi, on voit qu'il tweet à propos de la liberté d'expression pour se
victimiser. Mais je suis frappée de voir la gauche et Guillaume Meurice, l'extrême-gauche, découvrir ce qu'est la liberté d'expression. Le problème, c'est que c'est comme le cholestérol, il y a la bonne liberté d'expression et la mauvaise liberté d'expression. En fait, c'est leur liberté d'expression qu'ils défendent. Mais en réalité, quand il s'agit de défendre celle des autres, je peux vous dire que la phrase de Voltaire, elle est bien loin. Et je vois du reste beaucoup de gens sur lesquels il a craché qui le défendent ce soir. Et je me dis, écoutez, panache.
Et oui, il a réitéré donc ses propos parce que ça avait été classé sans suite. Il a réitéré ses propos.
C'est ça qui est fou.
Ses propos dimanche.
C'est classé sans suite. Oui. Alors théoriquement, c'est classé sans suite. Oui. Et lui, il fait une suite.
Oui, exactement.
Il va tout seul. Mm-hmm. En fait, moi, je suis tout à fait contre la judiciarisation de ces sujets. Dans une démocratie saine, dans une agora, les idées doivent circuler, les paroles doivent circuler, etc. Et voilà. Par contre, un employeur, oui, peut considérer que des propos vont porter atteinte à l'image, et là, en l'occurrence, du service public. Oui, le service public, c'est quelque chose qui doit réunir tout le monde. Donc des propos aussi dérangeants, peut-être que c'est gênant, le service public. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on a porté plainte, en réalité.
Il y a deux choses. Il y a cette question de liberté d'expression. On en a beaucoup parlé, notamment par le biais du livre qu'il avait écrit. Souvenez-vous, Mathieu nous en avait parlé. Parce que, en effet, Guillaume Meurice avait l'air de s'étonner dans son livre que des gens soient poursuivis en France pour des propos qu'ils ont tenus. Alors, il n'est pas le premier. On ne l'a pas entendu pour les autres. Et je pense qu'on ne l'entendra pas demain non plus pour certaines autres personnes. Ça, c'est sûr. S'ajoute à ses propos, en plus, le fait qu'il est un humoriste, que la justice déteste poursuivre parce que qui décide de ce qui est drôle, à quel moment et avec quelles limites, c'est une question qui est légitime d'ailleurs. Mais la troisième chose, par ailleurs, c'est aussi le comportement. Il y a une plainte qui a été déposée, il n'avait pas été suspendu à l'époque, elle est classée sans suite, donc la justice s'en débarrasse, et il le redit, et là, il y a un comportement qui est différent. Donc, on se dit à la fois, il faut attendre les décisions de justice, en même temps, quand elles sont rendues, du coup, elles n'ont pas d'impact non plus. Tout est un peu gênant dans cette histoire, en fait, parce que les comportements s'adaptent vraiment en permanence. Je pense que c'est en effet pour des raisons éditoriales, le service
Radio
public,
France,
probablement Radio France, n'avait pas du tout envie de s'embêter avec une deuxième polémique sur les mêmes propos. Il y a un petit côté provocateur, un peu solitaire, et un manque de solidarité avec son entreprise. Mais bon, c'est vrai que de quel côté qu'on le prenne, on aimerait bien que Guillaume Meurice élargisse sa réflexion.
Il ne s'est pas étonné que Jean-François Aquili soit renvoyé. Il s'occupe uniquement de sa chapelle. Moi, je suis pour la liberté d'expression, je ne vais pas m'étendre, je suis en écho avec mes camarades. Reste que quand vous êtes humoriste, ouvert au grand public, je pense qu'on peut rester dans un certain cadre. On a la chance d'avoir des journaux satiriques, comme Le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo. Là, on peut être dans l'outrance pour l'outrance. Mais à un moment donné, quand on s'adresse au très grand public, et là, moi, ça me fait pas rire, mais bon, on ne veut pas savoir ce qui fait rire ou pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose de grinçant, et pas grinçant dans le bon sens. Je vois pas l'espace de liberté que ça ouvre. Or, la caricature doit ouvrir une liberté.
Oui, l'outrance n'est pas l'insulte, et la liberté d'expression est encadrée. Les limites, comme on a dit hier encore, apologie pour le terrorisme, incitation à la haine, insulte, etc.
La première qualité de l'humour, c'est d'être drôle. En l'occurrence, c'était même pas drôle.
Voilà. Et c'est un problème beaucoup plus large que Guillaume Meurice.
On a vu que le Rassemblement national, évidemment, caracole en tête des sondages pour les européennes. Selon le sondage Opinionway, Reconquête prendrait encore 2 points, serait à 8 points depuis l'arrivée de Sarah Knafo, a priori. Charlotte Dornelas, on va se poser une question clé ce soir. Certains électeurs, qui commencent évidemment à s'intéresser très sérieusement aux élections, demandent souvent quelle différence entre RN et Reconquête, comment la comprendre ?
Alors, c'est vrai que la première question, elle se pose sur le terrain du positionnement politique en France, c'est-à-dire des sujets, des différents sujets que vous prenez de la vie politique française, et elle s'oppose, et là je fais un peu écho à ce que disait Guillaume tout à l'heure, elle s'oppose parfois de manière extrêmement différente dans le rapport à l'Union européenne et surtout dans le rapport de force et donc dans ce qu'il est possible de faire en tant que parlementaire européen. Donc on va commencer par les divergences. Par exemple, il y en a une qui était assez évidente, il y a évidemment des points communs entre ces deux partis, il y en a même avec François-Xavier Bellamy qui est encore un autre sujet que l'ELR. Donc vous voyez, tout ça est très composite, on va dire. Et on l'a vu aux dernières élections présidentielles, par exemple, dans la hiérarchie de l'importance, dans la manière de s'adresser aux Français. Sur le terrain migratoire, il y a une inquiétude partagée entre ces deux parties, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas forcément dans les outils, pas forcément dans les manières d'en parler. Simplement, par exemple, Éric Zemmour est arrivé en politique en portant reconquête, en parlant premièrement de la question civilisationnelle, donc des conséquences civilisationnelles de l'immigration. Quand Marine Le Pen a continué à assumer cette question-là en la mettant derrière la question du pouvoir d'achat. Donc il y avait une différence dans la manière de s'adresser aux Français, dans la question de l'urgence, dans la manière de concevoir aussi l'urgence politique. Ensuite, on a plusieurs questions qui opposent ces deux parties. On a évidemment la stratégie politique. Hein, Marine Le Pen a beaucoup progressé ces dernières années en parlant ni de droite ni de gauche, mais en faisant une union. Alors des patriotes, vous avez eu plusieurs noms qui sont arrivés. Éric Zemmour est arrivé dans la vie politique en parlant d'union des droites uniquement. Donc il voulait vraiment unir d'un côté de l'échiquier politique avec une base. Ensuite, on a le rapport à l'islamisation ou à la laïcité. C'est deux choses, alors ça a l'air d'aller ensemble, mais c'est deux choses différentes. Quand Reconquête affirme que l'islam, par exemple, n'est pas compatible avec la République ou avec la France et que les musulmans peuvent l'être, mais pas l'islam, il se place sur un terrain civilisationnel. Marine Le Pen l'avait dit dans une interview, Jordan Bardella l'a répété il y a quelques jours, il ne croit pas, ni l'un ni l'autre, au choc des civilisations. Ce n'est pas une question de civilisation, c'est une question d'encadrement par le biais de la laïcité. C'est pour ça que je dis qu'il y a une conception différente entre les deux. La question de la remigration, on a vu Marine Le Pen demander des comptes à son allié européen, justement l'AFD allemande, qui parlait de remigration. Remigration, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Quand vous expliquez que vous êtes ministre de l'Intérieur, par exemple, que les gens clandestins aujourd'hui en France ont vocation à retourner dans leur pays, on peut y voir une forme de remigration, c'est-à-dire de migration à l'envers. Est-ce que vous parlez de gens de la troisième génération, vous ne parlez pas exactement de la même chose, de gens qui viennent d'arriver qui sont clandestins, de gens qui sont arrivés mais qui sont en situation légale? Ce mot peut recouvrir énormément de situations différentes, mais on a vu au moment où l'AFD en parlait, Marine Le Pen demander des comptes à son allié européen et Reconquête assumer précisément ce mot et cette idée. Donc là aussi, il y a une différence de stratégie. Le terrain économique, évidemment, on a Marion Maréchal, qui est aujourd'hui tête de liste Reconquête, parlait encore récemment de l'assistanat, interroger le financement public des syndicats, interroger même le droit de grève dans la fonction publique. C'est évidemment pas le discours, en tout cas pas, certainement pas la manière de le présenter au Rassemblement national qui, il y a peu de temps, refusait par exemple des contreparties sur le RSA. Donc vous voyez, entre le discours sur l'assistanat et celui-ci, il y a de véritables différences. Et le rapport aux questions qu'on appelle sociétales, éthiques, bioéthiques, appelez-les comme vous voulez, Marine Le Pen avait dit lors de la dernière élection présidentielle qu'elle voulait un moratoire sur ces questions qui divisent, disait-elle, inutilement le pays. Donc elle voulait que pendant quelques années, pendant qu'on s'occupait de questions politiques de fond, on n'arrive pas là, il n'y a pas de consigne de vote, par exemple, sur ces sujets au sein du Rassemblement national. On l'a vu sur l'ouverture de la PMA, sur l'IVG dans la Constitution, probablement demain sur la question de l'euthanasie. Reconquête a une ligne beaucoup plus assumée d'opposition très ferme sur ces sujets-là. Et enfin, vous le disiez, le rapport à l'Europe, là, on voit bien qu'il y a quelque chose de commun entre ces deux parties, c'est le positionnement par rapport à ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. On sent qu'il y a un positionnement dans cette Union européenne qui est contraint en réalité dans ces deux parties. C'est-à-dire de dire ça ne fonctionne pas comme on voudrait que ça fonctionne. On veut défendre une souveraineté nationale et donc une primauté du droit national sur le droit européen. On le retrouve d'ailleurs aussi dans le discours chez les LR depuis quelques années. Mais en revanche, elle existe telle qu'elle aujourd'hui, donc nous voulons vouloir peser. Ça, c'est quand même un discours qu'on retrouve très clairement chez ces différentes droites.
Et c'est vrai que c'est là où on voit l'opposition frontale. On voyait avec Emmanuel Macron. Alors, oui, vous évoquiez donc une position commune, en tout cas perçue comme telle, sur l'immigration, notamment au niveau européen. Donc, c'est ça leur véritable point commun.
C'est d'ailleurs pour ça, il n'y a qu'à voir comment les ennemis vous désignent, ou les adversaires en l'occurrence, sur le terrain politique. Mais tout ça est de loin appelé l'extrême droite par les autres. notamment en raison de la question de l'immigration et du rapport, en effet, à la place de l'islam, la manière dont on le pense, et notamment sur le terrain culturel et politique. Donc c'est évidemment ça qui les désigne et ce qui fait leur point commun. D'ailleurs, pendant toute la campagne électorale, on s'est demandé qui est le plus à droite, qui a dépassé par la droite, et est-ce qu'il est plus à droite, et est-ce qu'ils sont... Bon, vous voyez, donc c'était vraiment sur ce terrain-là que ça jouait. Et d'ailleurs, en période électorale, vous voyez que l'imbroglio qu'il y a eu entre Reconquête et le RN, et même avec participation parfois des LR, s'est fait sur le vote du pacte de Marrakech. Ils s'accusaient les uns les autres d'être plus ou moins immigrationnistes, ce qui probablement faisait un peu rire leurs adversaires politiques qui ne les définissent que comme des opposants à l'immigration. Donc vous voyez aussi, il y a le rapport en période électorale, il y a une distance qui est plus ou moins grande par rapport au sujet évidemment qu'on traite. Mais ce qui est vrai, c'est que pour le Rassemblement national, pour Reconquête et même pour le LR, en tout cas version François-Xavier Bellamy dans les différentes prises de position qu'il a prises, sur ce terrain-là et par rapport à l'Union européenne, il y a de véritables points communs dans la manière de le concevoir. La première chose, c'est qu'ils veulent, quand ils parlent de reprendre le contrôle des frontières, ils ne le pensent pas comme Emmanuel Macron ou comme les tenants, les défenseurs du pacte de Marrakech, puisque eux pensent que pour reprendre le contrôle, il faut commencer par savoir les fermer et donc qu'elles soient établies. Et par ailleurs, ils défendent une double frontière, entre guillemets, française et européenne, c'est-à-dire les frontières extérieures de l'Union européenne. On a le Rassemblement national nous parle de blocus maritime. Marion Maréchal parlait de blocus naval, donc du côté de Reconquête. François-Xavier Bellamy expliquait qu'il fallait forcer les ONG, une fois qu'elles portaient secours aux bateaux, à pouvoir les rapatrier dans les ports sur les plus proches et non pas les débarquer en Europe, comme l'obligent aujourd'hui les traités, et notamment Genève. Donc vous voyez que sur le rapport même à l'existence des frontières, ensuite il y a la question de la vision de Frontex. Là aussi, vous voyez, nous sommes en période électorale. Fabrice Leggeri a rejoint la liste du Rassemblement national et du côté de Reconquête et du côté des LR. On s'est dit, c'est étonnant que le RN revendique la présence de Fabrice Leggeri puisqu'ils ont beaucoup critiqué Frontex. Jordan Bardella a beaucoup critiqué Frontex, mais si on va jusqu'au bout, Fabrice Leggeri lui-même a démissionné de Frontex parce que pour l'argument qu'ils ont tous les trois en commun, encore une fois, c'est-à-dire que Frontex doit être une force de garde frontière et non pas une force d'accompagnement de la migration. Et c'est ce qu'avait dit Fabrice Leggeri au moment où il avait rejoint le Rassemblement national. Il critiquait la Commission européenne qui lui demandait précisément d'être une force d'accompagnement beaucoup plus que de contrôle. Donc là encore, il y a des points d'accord. Sur la question des demandes d'asile, ils veulent tous les trois les traiter depuis l'extérieur, soit par le biais de hotspots, soit dans les pays d'origine, pour que précisément les déboutés du droit d'asile ne mettent jamais un pied en Europe. François-Xavier Bellamy, même lui, parlait du rapatriement des illégaux, ce que je vous disais tout à l'heure, de quoi on parle exactement quand on parle de remigration, c'est-à-dire de migration inversée, entre guillemets. Il y a aussi la question de la souveraineté juridique en matière d'asile. C'est cette interrogation qu'ils ont en commun, et là, pour le coup, on l'avait vu même à l'élection présidentielle, c'est-à-dire que la constitution française soit changée pour que prime le droit national sur les traités internationaux ou le droit européen, et la renégociation de certains articles de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est aussi quelque chose qu'ils ont bien sûr en commun.
Alors, mais quelles sont donc leurs différences dans une telle élection européenne ? D'un côté, Reconquête, qui joue le vote du courage et des convictions, le RN, qui joue celui du vote utile.
Il y a évidemment des stratégies électorales qui leur appartiennent, et donc je les laisserai les développer les uns les autres. Mais il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une chose qui relève du scrutin. Et donc, ce scrutin est très particulier de l'élection européenne. Il se rend une fois. À partir de 5%, on voit ça dans aucune autre élection en France. À partir de 5%, à chaque nouveau pourcent que vous gagnez, vous avez un député de plus. En dessous de 5%, vous n'en avez pas. À 5, vous en avez 5. Et après, à chaque pourcentage. Donc, si vous voulez faire 6, c'est beaucoup. Vous avez déjà 6 députés. Donc, il ne faut surtout pas faire 4,8. Mais à partir de 6, quand même, vous avez une existence. Et ces partis-là, et là j'inclus encore une fois LR, ne joue pas du tout la même chose, même sur le terrain national, dans cette élection européenne. Le RN joue évidemment la différence entre la victoire et le triomphe. Je crois que c'est Guillaume qui avait parlé de ça l'autre jour. Mais est-ce qu'ils vont atteindre les 30% qu'on leur prête dans les sondages? Et donc, est-ce qu'il va y avoir une conséquence dans la vie intérieure? Et d'ailleurs, Jordan Bardella parle souvent des conséquences qu'aurait un très bon score du RN dans la vie politique française. Reconquête joue évidemment son existence dans une institution et donc le fait d'avoir des parlementaires et donc de pouvoir intervenir en tant qu'élue au Parlement européen. Et LR, on pourrait dire, joue aussi une forme de survie extrêmement différente, qui est là une survie dans les institutions, avec un passé évidemment très existant, on va dire, sur le terrain de l'élection. Donc vous voyez, ils ne jouent pas la même chose, mais ils ont tous intérêt à se positionner par rapport à ce mode de scrutin extrêmement particulier. Et ensuite, il y a la question du fonctionnement de l'Union européenne. Et là, je renvoie aussi à ce que disait Guillaume tout à l'heure, ces partis appartiennent à des groupes. Donc on a le Rassemblement national qui appartient à ID,
Identité et démocratie.
Identité et démocratie. Reconquête qui a réussi un bon coup ces derniers mois de se rattacher aux conservateurs et réformistes, qui est en effet le groupe avec Giorgia Meloni, mais qui attire beaucoup d'autres partis qui pourraient demain les rejoindre. Mais on a aussi, et là on voit la limite de ce que veut dire un groupe sur les questions européennes, François-Xavier Bellamy appartient au PPE, auquel appartient également Ursula von der Leyen, défendue depuis le premier jour par Emmanuel Macron, qui lui n'appartient pas à ce groupe-là, et François-Xavier Bellamy de se défendre aujourd'hui en disant mais précisément au sein du PPE, comme d'autres disent au sein de l'Union européenne, nous pèserons beaucoup plus contre Ursula von der Leyen qu'à l'extérieur de ce groupe. Donc vous voyez que sur différents sujets, ils ne seront pas forcément d'accord. Il y aura aussi des intérêts nationaux qui ne sont pas les mêmes entre tous ces partis-là. Quand vous êtes aujourd'hui, et la question ukrainienne est très intéressante, quand vous n'avez pas les mêmes intérêts, par exemple géopolitiques, entre les différents partis, vous pouvez être dans un groupe et que c'est extrêmement pertinent sur certaines questions et ça ne le sera pas du tout sur d'autres. Donc en effet, il y a des partis aujourd'hui, le Rassemblement national par exemple, et à des, comment dire, des bisbilles extrêmement sévères, notamment avec l'AFD, on l'a vu récemment au sein de son propre groupe. Ça pourrait aussi arriver demain sur d'autres sujets, avec d'autres personnes. Et je pense que l'exemple de François-Xavier Bellamy qui se pose en opposant numéro un interne à Ursula von der Leyen, ce qui est par ailleurs extrêmement vrai sur le terrain des idées. Ils ne sont pas d'accord sur deux choses. Mais quand François-Xavier Bellamy vote contre le PPE, il n'empêche qu'une partie du PPE vote quand même et que c'est le même groupe aussi. Donc ça ne résume pas tout ce que pensent évidemment ces partis-là, encore moins au niveau national, et comme l'expliquait très bien mon camarade Guillaume.
Alors, on a envie de se demander effectivement à quoi ça sert de voter.
Belle conclusion.
J'aime bien parce que ça fait juste une heure qu'on explique son utilité. Ouais. Mais c'est vrai. Non, mais Charlotte,
ce qui se passe. Sinon, ils font des trucs.
Non, mais personne. Non, mais Guillaume, dites-moi très sincèrement. On a compris effectivement que ça, il y a un poids à peser au sein du Parlement européen, mais qui reste léger. Mais voilà, dites-nous à quoi ça sert de voter.
Parce que je pense que c'est un point d'observation. D'abord, je rappelle que Nigel Farage a été élu au Parlement européen, il a dynamité le système de l'intérieur, et c'est très important, parce qu'en fait, Boris Johnson, comment il a aussi contribué énormément par son talent, par son intelligence, par son humour très britannique, à faire sauter le système. En fait, Boris Johnson, il a listé toutes les dingueries, on pourrait dire, de l'Union européenne qui sont à peine croyables. Moi, si vous me donnez un quart d'heure, je vous raconte des choses, mais les gens vont tomber à la renverse.
Ah ouais,
et bien évidemment, bon, par exemple, on fait manger des insectes,
allô, bro,
la farine, etc. Ben, c'est complètement fou, alors on dit... Bon. Donc, vous voyez, et il a fait ça avec beaucoup de détachement et il a informé les gens de ce qui se passait. Il faut leur dire ce qui se passe à l'intérieur.
Très intéressant. Votre coup de point final. On va parler un peu. Est-ce que vous ne croyez pas que les sociétés multiculturelles puissent être pacifiques? En fait, la question, c'est, on est en train de voir en Suisse, manifestation pro-palestinienne, au Royaume-Uni, bon, ils ne sont pas dans l'Union européenne, en Allemagne, en France, manifestation pro-palestinienne partout. Question, au niveau de l'Union européenne, est-ce qu'on ne va pas vers une certaine libanisation de l'Union européenne, entre guillemets?
Alors, c'est une question complexe parce qu'il y a toujours des contre-exemples. Il y a eu des sociétés multiculturelles dans le passé, il y en a dans aussi aujourd'hui. On pourrait dire la Suisse, finalement, c'est une société multiculturelle, ça marche pas si mal. La Fédération de Russie, c'est multiculturel, tout le monde n'est pas russe au sein de la Fédération de Russie, ça marche pas si mal. Le monde anglo-saxon, même si maintenant il est quand même bien bousculé, notamment par l'islamisme, il a plutôt bien fonctionné. Mais en fait, il faut qu'il y ait un patriotisme très puissant. En Suisse, il y a un patriotisme très puissant. En Russie, il y a un patriotisme très puissant. Aux États-Unis aussi. Ensuite, il faut, en général, vous rendez compte qu'il y a toujours un groupe dominant qui donne le ton, qui donne la culture, qui donne la langue. et qui est un point de repère. Tout le monde n'est pas russe en Russie, mais c'est autour de la culture russe que ça se joue. Tout le monde n'est pas anglo-saxon d'origine, mais ça se joue autour de la langue. Donc, on peut avoir des sociétés diverses, mais en général, le paradoxe, c'est qu'il y a quelque chose de très fort qui les tient. Voilà. S'il n'y a pas quelque chose de très fort, si les sociétés sont pluriculturelles et multiconfessionnelles, il y a des exemples, et notamment, nous, Français, on est proche du Liban, on sait ce qui s'est passé au Liban. Hein, le Liban, il faut rappeler, dans les années 70, on parlait du Liban comme de la Suisse du Moyen-Orient. La Suisse du Moyen-Orient. Au cœur de Beyrouth, dans les beaux quartiers de Beyrouth, ça coûtait plus cher le mètre carré qu'à Manhattan. D'accord ? Donc c'était un pays de cocagne, la Suisse. Le Liban. Qu'est-ce qui s'est passé au Liban ? Il y a eu 250 000 morts pour 3 millions d'habitants. 250 000 morts. Imaginez les proportions en France. Ça serait des millions et des millions de morts en France. Pourquoi ? Parce que la société a été déséquilibrée. Il y a eu une arrivée massive de réfugiés palestiniens. Ils ont importé la guerre et ils ont déséquilibré l'équilibre confessionnel. Donc une société, c'est très délicat, une société. C'est très compliqué de faire vivre des gens ensemble sur un territoire, surtout s'ils sont différents. Et on ne peut pas jouer avec ça. Et là, on est en train de jouer avec ça. C'est extrêmement dangereux, surtout qu'en Europe, on n'a aucun patriotisme pour le coup européen et on a un État qui est par définition très faible.
L'Union européenne ne pourra pas assimiler les nouveaux venus ?
Mais déjà, l'Union européenne, pourquoi veut-elle faire venir des migrants en grande quantité ? Elle nous explique, c'est essentiellement pour des raisons démographiques, parce qu'on a un vieillissement de la population. Mais rien que ça, c'est complètement inepte quand on réfléchit. Pourquoi ? Qu'est-ce qui permet d'assimiler ? Ce qui permet d'assimiler, c'est quand vous avez des enfants locaux, vous avez des enfants italiens, vous avez des enfants américains au 19e siècle, vous avez des enfants français quand il y a eu l'immigration a été assimilée ici, en quantité suffisante. Vous faites venir des nouveaux venus, ils deviennent français, ils deviennent italiens, ils deviennent américains parce qu'ils ont beaucoup de petits camarades. Si vous avez un vieillissement, vous n'avez plus suffisamment d'enfants, vous faites venir des paquets de gens de l'extérieur, excusez-moi, ça s'appelle une invasion, c'est pas une invasion militaire si vous voulez, mais c'est absolument normal. Les gens, ils vont s'assimiler à qui ? Ils vont s'assimiler à quoi ? C'est-à-dire ce qui se passe, ils vont se retrouver entre eux. Donc, c'est une folie. Par ailleurs, j'insiste sur un point, l'Union européenne, en plus, c'est un projet par nature multiculturel. Je m'explique. Si l'État européen que veut Emmanuel Macron, passons même sur le petit détail qui s'appelle la démocratie. D'accord ? Le problème, dans ce cas, si l'Union européenne fonctionne jusqu'au bout, ça veut dire qu'un Suédois est chez lui en France, un Français est chez lui en Suède. Vous avez une déliaison entre d'un côté l'État et la politique et de l'autre côté le culturel, le linguistique, les origines, le peuple. Et donc dans ces conditions, vous avez un État faible, vous n'aurez plus de patriotisme, vous faites venir des gens de l'extérieur, mais c'est un suicide. Ils pensent imiter le peuplement des États-Unis au 19e siècle. En fait, ils vont imiter la chute de l'Empire romain très rapidement.
On marche sur la tête. Le livre de Guillaume Bigot qui sort demain. Merci beaucoup. Merci à tous. Excellente suite de programme. L'heure des pros 2. Pascal Pro. À demain. Non, à lundi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.